Vous écoutez
RMC.
RMC Football Show.
Timothée Mémon.
19h passé de 2 minutes, on est de retour dans le RMC Football Show. On continue à dérouler l'actualité football du jour. On a assez largement parlé de Troyes dans la première partie de l'émission. On a également parlé de l'Olympique Lyonnais. On va revenir sur l'actualité plus générale qui fait évidemment les gros titres en ce moment. C'est le transfert de Lionel Messi qui est arrivé au Paris Saint-Germain. Vous le savez, premier entraînement aujourd'hui au Camp des Loges. Un entraînement qui s'est conclu par un asado, comme on dit en Amérique du Sud, un gros barbecue avec, on l'imagine, de la viande argentine pour faire plaisir.
Des grosses saucisses.
À Lionel Messi, ça va qu'on n'est pas à deux jours d'un match avec des champions. C'est pas la collation, hein. Avec des pâtes et du poisson sans huile. Bref, on va revenir à ce sujet qui évidemment truste l'actualité. Et avec nous, pour en parler, eh bien, nous sommes avec Mabel Núñez, qui est journaliste freelance en Argentine. Bonsoir, Mabel Núñez.
Bonsoir, comment ça va?
Ah bah ça va très bien, Mabel. C'est étonnant de dire bon, ça va, Mabel. C'est juste que c'est votre prénom. Ça. En français, c'est étrange. Donc, ça va très bien, Mabel. On est très heureux d'être avec vous. Première sensation, c'est comment est vécu ce transfert sur place en Argentine?
Bon. C'est vrai qu'ici en Argentine, c'est de la folie. Hein? Tous les chaînes, tous les journalistes, toutes les émissions, tous les programmes, tous les journaux, ils sont en train de parler de Messi, bien sûr, si on arrive au Paris Saint-Germain. C'est partout dans l'Argentine.
Alors, c'est partout en Argentine, mais est-ce que c'est bien perçu? Le fait d'abord que peut-être certains l'imaginaient ad vitam aeternam au Barça, peut-être que d'autres l'espéraient de retour au Newell's. Finalement, le fait qu'il vienne à Paris, est-ce que c'est bien perçu par les supporters argentins?
C'est vrai qu'il y a des différents points de vue, comme tout. Il y a des gens qui pensent que Messi devait rester à Barcelone, même de façon gratuite, pour tout ce que c'est bien que l'argent qu'il a gagné là-bas. Il y a des gens qui croient que le Barça a dû les garder, les protéger. C'est des points de vue de différents gens. De toute façon, je crois que Messi a arrivé à Paris Saint-Germain, et les gens ici, ils sont contents et ils sont en train d'attendre qu'est-ce qui va passer avec le Paris Saint-Germain, avec Messi et avec tous ses copains.
Ses copains
argentins comme Paredes, Di María, ses copains brésiliens, Neymar, etc. Non?
Mabel, bonjour. Est-ce que donc Messi avec cette dernière victoire là, enfin, pas la dernière, je l'espère, mais est-ce que cette victoire avec l'équipe nationale argentine a changé quand même un petit peu certaines choses dans la vision que l'on peut avoir de Messi depuis l'Argentine?
Pardon, je ne vous écoute pas.
Le fait que Lionel Messi ait gagné la Copa América avec l'Argentine, est-ce que ça a changé la perception de l'Argentine vis-à-vis de Messi, qui, il est vrai, peinait à gagner des grandes compétitions avec son équipe nationale alors qu'il gagnait tout en Europe?
Bien sûr, après la Copa América, c'est vrai qu'il y a un grand espoir de voir Messi gagner avec les Paris et avec aussi pour Qatar l'année prochaine, non?
Ouais, la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde au Qatar. C'est vrai que le Paris Saint-Germain réalise un coup sportif, mais le Paris Saint-Germain réalise aussi un coup économique en termes de marque. Vous avez la sensation depuis l'Argentine que tout à coup le Paris Saint-Germain va être plus suivi, plus scruté? Est-ce que les Argentins peuvent se prendre de passion pour le Paris Saint-Germain pour l'unique raison que Lionel Messi est signé?
Ici en Argentine, le Paris Saint-Germain, vous savez, c'est très connu pour les Argentins et aussi pour les Argentins qui jouent là-bas. Et ici, en Argentine, ils pensent qu'il manque les gagner, bien sûr, la champion. Et c'est pour ça que Messi, c'est un grand espoir pour vous. Pourquoi, non?
Oui, absolument, absolument. Mabel, vous restez avec nous si vous le voulez bien. On va accueillir Jorge Morón, qui est correspondant de Todo Noticias en France. Todo Noticias, ce serait le BFM TV argentin. Bonsoir Jorge, merci d'être avec nous.
Bonsoir à tous, comment allez-vous?
Bonsoir Jorge. Très bien, Hola Chicos, attention, c'est une marque déposée à RMC, le Hola Chicos. Jorge, Qu'est-ce qu'on vous a demandé ces derniers jours professionnellement? Vous êtes donc correspondant en France de Todo Noticias et Lionel Messi a signé au Paris Saint-Germain. Est-ce que ça a été des journées folles? Est-ce que l'Argentine s'est passionnée pour ce transfert comme la France et l'Espagne se sont passionnées pour ce transfert?
Absolument, même avant son arrivée. C'est-à-dire nous, avec l'équipe de Todo Noticias, on était déjà... On a travaillé du moment où les premières rumeurs en fait de sa venue sont commencées. C'est-à-dire juste pour vous donner un exemple un peu drôle, la semaine dernière, c'était précisément samedi dernier, il faisait pas beau du tout et on était déjà au Parc des Princes en fait en train de parler sur les possibilités, sur l'arrivée de sur les derniers détails par rapport à son contrat. Il y avait absolument personne, quelques touristes en fait qui faisaient la visite guidée du parc ou qui achetait dans le store officiel. Mais à part ça, en plus, il pleuvait. Donc, il n'y avait personne, il n'y avait que nous. Et ça fait depuis, comme je vous dis, plus de 7 jours au moins qu'on travaille, en fait, qu'on suit Messi un peu partout. Partout. Du moment où il y avait ses rumeurs, mais même jusqu'à son arrivée. Demain, évidemment, on sera présent dans les entraînements. Et c'est-à-dire, la presse argentine, en plus... pas seulement notre chaîne, mais il y a d'autres collègues en fait des chaînes sportives spéciales en fait en Argentine qui sont venus en France à Paris spécifiquement pour suivre en fait le phénomène Messi, pour que vous ayez une idée de ce que ça veut dire pour l'Argentine et pour les Argentins en particulier son actualité.
Oui. Ouais, c'est vous donc il y a des reporters qui ont été dépêchés depuis l'Argentine vers la France pour suivre ce transfert. Quand les choses ont commencé à bouger, est-ce qu'il y a eu du doute ou alors est-ce qu'on a tout de suite senti que la chose pouvait se faire? Nous en France, c'est vrai que ça a commencé à bruisser quand Barcelone a dit qu'il ne pourrait pas continuer avec Messi.
Oui, c'était surtout ça un peu le vrai feu vert. Nous, on avait déjà évoqué il y a à peu près 8 mois la première possibilité. Donc, on savait que le Paris Saint-Germain allait être toujours un peu à l'attente, en fait, d'aller vers Messi. Mais il est vrai que du moment où on a vu que le Barcelona vraiment ne pouvait pas le payer, et c'est à partir de ce moment-là que le feu vert, et surtout là, toutes les yeux, en fait, on est senti vers la France. Et c'est là, en tout cas, où mes propres collègues, en fait, de la chaîne m'ont dit, bon, je pense que, on pense que ça va être vraiment la France parce que n'ayant pas de la concurrence avec le City et une faible possibilité, parce qu'on parlait à un moment aussi de la MLS, toutes les chances étaient pour PSG. En plus, même si les supporters de New Soul Boys, ils voulaient s'y garder un petit espoir, mais c'est presque impossible aujourd'hui de dépenser une rentrée en Argentine de Messi pour le club. Donc effectivement, tout était du côté parisien. Et comme je vous dis encore de plus en plus, en fait, non seulement ils s'intéressaient à la vie au Paris Saint-Germain, mais aussi à la vie parisienne que Messi pourrait avoir, parce que les Argentins, ils connaissent bien le PSG, mais ils connaissent pas tellement la France, en fait, comme vous imaginez, comme les Européens la connaissent. En fait, on connaît des choses, des clichés, mais ça invite aussi à parler des attractivités de Paris et de la France en général.
C'est quelque chose qui a joué à vos yeux dans le choix de Messi, cette possibilité justement de vivre à la française. Quelles ont été les curiosités qu'avait votre chaîne sur cette vie à la parisienne?
Surtout, il s'était intéressé pour savoir déjà par rapport il y a la météo. C'est vrai qu'il y a un changement important. Barcelona, normalement, il y a beaucoup plus de soleil qu'à Paris.
Ouais.
Mais aussi, il voulait savoir dans quel quartier on pourrait le recommander de vivre. Ou par exemple, quels seraient ces endroits où il aimerait parfois passer des moments sympathiques. Il y a eu même des reportages, des articles en fait que j'ai lus en fait sur la sur quelques balades qu'a fait sa femme Antonella par Paris. Donc en fait, il n'y a pas que c'est Messi et tout ce qu'il y a autour de lui. Et effectivement, souvent on me demande en fait bon l'actualité un peu française, la culture française. Qu'est-ce qu'on peut faire parfois à Paris à cette situation? Donc ça ouvre aussi un éventail intéressant en fait au niveau culturel aussi. Donc c'est pas que foot, mais ça fait partie de cette messimania qu'il y a aussi à Paris avec les échos en Argentine.
Et sur le plan sportif, c'est vrai qu'on a parlé de la MLS pendant un temps. Certains ont imaginé un retour au Newell's qui, sans faire offense ni au championnat américain ni au championnat argentin, aurait pu être considéré comme un petit peu un retour en arrière. Est-ce qu'en termes de compétitivité pour l'équipe nationale avec l'équipe argentine, est-ce que ce transfert est perçu comme une bonne nouvelle de la part des supporters argentins qui se disent on va continuer à avoir un Messi dans un club compétitif qui joue la Ligue des Champions et qui sera donc prêt, dispo et à 100% avec l'équipe nationale?
Là aussi, les opinions sont un peu partagées. Parce qu'effectivement, le fait d'avoir gagné la Coupe América, ça a donné beaucoup d'espoir. Effectivement, il y a la plupart qui se sont plus focalisés sur toute la compétition et un peu moins sur la finale en soi par rapport à la performance de Messi. Mais donc, il y a certains qui disent, voilà, il va continuer à être le même joueur, en fait, même si il n'y a pas tous les stars qui avaient au Barça. Mais au PSG, il y a énormément de stars et aussi des bons amis de Messi. Et il y a aussi ceux qui se demandent en fait comment ça va se passer pour lui au niveau performance, justement. Il ne faut pas oublier qu'il a, si je ne me trompe pas, 35 ans. S'il aura la même puissance, s'il sera capable de gagner une nouvelle Ligue des Champions. Tout le monde, en tout cas, tout le monde le souhaite, mais en Argentine, ils ne savent pas s'il pourra le refaire. Et surtout, il y a un point qui est vraiment important, c'est Qatar. C'est la coupe
du
monde
oui.
L'année prochaine. Donc s'il fait un bon championnat, une bonne saison à Paris, je pense que les gens vont être vraiment avoir beaucoup plus d'espoir de ce qu'il y a déjà par rapport à l'année prochaine à la Coupe du Monde.
Ce qu'on va lui fixer comme objectif, donc allez, on va bien se mettre d'accord. La Champions League avec le Paris Saint-Germain et 6 mois après la Coupe du Monde avec l'Argentine. Donc là, après, il peut partir tranquille.
Ouais, je pense que ce sera ça. Après, il pourra aller où il voudra. Effectivement, s'il veut même finir à Newell's, il n'y aura aucun problème. Je pense que ça, on sera tous d'accord.
On est toujours avec Georges Moron, correspondant de Todo Noticias en France, et avec Mabel Núñez, journaliste freelance en Argentine. On revient dans un instant. On continue à évoquer la façon dont le transfert de Messi est perçu en Argentine. À tout de suite.
Football Show.
On est de retour dans le RMC Football Show. On continue à dérouler à l'actualité football de la journée. On est avec Mabel Núñez, journaliste freelance en Argentine, avec Jorge Moron, correspondant de Todo Noticias, l'équivalent de BFM TV en France. Mabel Núñez, j'avais une question, puisque vous êtes sur place, puisque vous êtes en Argentine. Question bête, est-ce que vous avez déjà vu quelques maillots du Paris Saint-Germain fleurir dans les rues de Buenos Aires? Je ne sais pas si vous êtes à Buenos Aires précisément, mais dans la ville où vous vous trouvez.
Bon, pas encore, mais de toute façon, on est en train de voir sur les chiens qui, bien évidemment, on est en train d'attendre le dicheur, mais ici, ça va toucher 17 000 pesos.
17 000 pesos.
Je crois que ça va être très très cher pour nous. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'acheter, bien sûr.
effectivement, il va falloir se poser la question financière. Le Paris Saint-Germain devra peut-être se poser cette question. Georges Morone, vous êtes correspondant de Todo Noticias. Un peu une même question, même idée. Est-ce que des confrères, des amis en Argentine vous ont d'ores et déjà commandé un maillot de Messi floqué du 30 avec ce maillot du Paris Saint-Germain?
Alors pour l'instant, je peux vous dire que ils font des économies, ils ont commencé à faire des économies parce que ce soit du côté argentin avec les 10 000 pesos ou plus les 150 euros qu'il faut avoir ici, selon ce que j'ai entendu, c'est pas donné. Donc en tout cas, il y a l'envie. Hein. Ils étaient mes collègues en tout cas depuis hier, ils étaient vraiment étonnés de voir. La rapidité, la vitesse avec lesquelles les maillots sont épuisés et du store en fait pour faire les commandes. Donc, mais oui, effectivement, ils veulent. Avec ça, c'est quelque chose qu'ils veulent. Ils veulent avoir ce maillot. Je pense que c'est un maillot qui va être qui est unique, particulière, pourquoi pas historique, je le souhaite. Mais effectivement, en Argentine, je pense que par rapport, il y a deux choses, comme je vous dis, je suis d'accord avec la collègue en Argentine, avec la crise économique, ça va pas être évident, mais je pense que les gens vont faire des efforts pour l'avoir. Il faudra attendre en fait à avoir plus de maillots parce que comme je vous disais, si j'ai pas mal compris, ils se sont épuisés en seulement une heure.
Ouais, effectivement, ça, il y a une grosse demande. Georges, depuis l'arrivée de Neymar, on a une consoeur brésilienne qui est là sur tous les matchs du Paris Saint-Germain, Isabella Pamedjari, qu'on salue. Vous l'avez peut-être rencontrée d'ailleurs ces derniers jours. Vous attendez, vous, à ce que votre charge de travail pour Todo Noticias augmente, à ce que vous deveniez l'une des attractions, l'un des vrais sujets récurrents pour la télévision argentine ici à Paris?
Ça m'étonnerait pas du tout. Déjà, nous on faisait des sujets assez de façon récurrente avec le sujet d'actualité évidemment. Mais là, je pense qu'effectivement, ça va être, il y aura beaucoup plus de travail. Je serai pas mal sollicité parce qu'effectivement, les yeux. Je pense que de la même façon que les yeux de la presse argentine ont été pendant 17 ans au Barça. Et en Espagne, de façon générale, là, il se tourne vers Paris. Donc, je m'attends à avoir. Je ne vous dis pas, ces dernières 4 jours, le nombre de messages que j'ai reçus sur mon téléphone et pas que de ma chaîne. Donc, j'avais l'impression que tous les médias argentins avaient mon numéro et qu'ils l'évitaient parfois parce que ça ne s'arrêtait pas. Donc, je peux vous dire qu'effectivement, je m'attends à une demande importante. Mais c'est logique quand on a les meilleurs joueurs du monde à Paris.
Merci beaucoup Georges Morone. On vous souhaite le meilleur, au plaisir de vous rencontrer sur un terrain de Ligue 1 ou au Parc des Princes.
Avec grand plaisir.
Et t'as vu, ça a augmenté aussi même le numéro dans le dos et c'est devenu 30.
Ouais.
Le prochain, c'est peut-être 40.
Merci également à Mabel Nunez d'avoir été avec nous. Mabel Nunez qui est une journaliste en freelance en Argentine. Merci d'avoir été avec nous Mabel.
Et merci à vous.
Salut Mabel.
À très vite. On voulait continuer, clôturer peut-être ce sujet sur Lionel Messi avec Christophe qui nous a appelé au 32-16. Bonsoir Christophe, comment ça va?
Bonsoir, vous allez bien?
Ça va bien, ça va bien.
Vous avez entendu, hein, il a clôturé avec le meilleur joueur du monde.
Ouais.
Ah non, mais parce que en fait, je voulais vous dire, Lukaku, hein, 24 buts toute l'année dernière. Hein. 115 millions d'euros, personne ne s'insurge. Kribich, là, 117 millions d'euros, le mec, on ne le connaissait pas avant l'euro. Hein.
Jack Grealish, ouais. Ouais, qui est parti à Manchester City.
Non, mais personne ne s'insurge. Tourelle, hier soir, il était romantique. Tu sais, il était romantique. Mais quand tu es romantique avec 115 millions d'euros, tu peux être romantique. À un moment donné, les éditos de Daniel Riolo sur le fait que Messi... ce serait presque un joueur de tocard, hein, presque un joueur qui on comprend pas comment il a pu arriver à Paris, hein. Non mais les gars, vous êtes fous, hein.
Alors, écoute, le
34 ans, il a mis 30 buts l'année dernière, les doigts dans le nez, il a fini meilleur joueur de la Copa América, il a gagné la Copa América. Non mais sérieux, mais moi je comprends pas, hein. Sérieux, en France, on est un pays de tarés, hein.
Mais attends, j'ai manqué peut-être quelques trucs là. C'est quoi là? Tu t'en prends à qui et pourquoi et comment?
Je t'invite Roland à lire les deux derniers éditos de Daniel Riolo. Je t'invite à les lire et tu vas voir que c'est absolument affligeant.
Bah, je vais regarder avec beaucoup de curiosité, effectivement.
Parce que, franchement, vous avez... Moi, je sais pas, mais c'est un rêve, quoi. Voir Messi à Paris dans le championnat, en Ligue 1, c'est... Mais je sais pas, c'est un... Mais ça devrait... C'est un bonheur. Moi, quand j'entends des supporters de tous les clubs qui sont contents, hein, mais de le voir jouer, mais c'est tellement un kiff. Vous vous rendez compte qu'il y a un club en Angleterre qui a acheté 115 millions d'euros Lukaku, et en Allemagne, ça, on s'est fait tirer à balles réelles par le Bayern de Munich et par Dortmund, parce que Messi arrivait à Paris pour 40 millions d'euros avec un salaire de 35 millions d'euros par an, 40, peu importe, parce que Lukaku c'est bien connu, et en Angleterre c'est bien connu, les mecs ils gagnent 2500 balles par mois. Hein.
Effectivement. Après, pour revenir sur ce que tu disais sur les éditos de Daniel, pour les avoir lus, Daniel remettait en perspective d'une part l'âge et puis le système qui a amené Messi au Paris Saint-Germain. Je doute que Daniel Riolo mésestime la qualité de Lionel Messi. En tout cas, on a entendu ton coup de gueule, on a entendu ton agacement, mais aussi ce que je retiendrai dans ton intervention, Christophe, c'est aussi ton coup de cœur, parce que vraisemblablement tu sembles extrêmement excité à l'idée de voir Lionel Messi jouer dans le championnat de France, et c'est bien naturel. Nous on continue de parler de l'actualité football aujourd'hui, et on sera dans quelques instants avec Stéphane Bauken, l'attaquant du SCO d'Angers et de l'équipe du Cameroun, qui sera avec nous dans quelques secondes.
RMC Football Show, Timothée Mémon.
19h27, de retour dans le RMC Football Show. On sera dans quelques instants avec Stéphane Bauken, l'attaquant d'Angers. Avant cela, je voulais vous rappeler une chose éminemment importante. Si vous voulez suivre évidemment les compétitions européennes, c'est sur la chaîne RMC Sport que ça se passe à partir de la semaine prochaine. Mardi à 21h, barrage aller Monaco, Shakhtar Donetsk en direct du Stade Louis II. C'est sur RMC Sport. Hein. Mercredi à la même heure, Benfica PSV Eindhoven. C'est sur RMC Sport, avec dans la foulée le débrief et toutes les images des matchs aller de barrage. Et puis jeudi à 18h en exclusivité, la Ligue Europa Conférence avec le match entre Rennes et le club norvégien de Rosenborg. Sachez enfin que cette saison, si vous voulez voir Lionel Messi et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, eh bien c'est aussi sur RMC Sport 1 que ça se passe. Ce sera également le cas pour les trois compétitions européennes. Vous le savez, il y a la Ligue des Champions cette année, l'Europa League et l'Europa Conférence. Coach, on va pas parler de Lionel Messi toute la soirée. Oui. On a bien fait le tour, sans dire des choses que l'on a déjà dites. Je voulais ta position de coach sur quel dispositif tactique, avec l'incroyable quantité de joueurs d'excellent niveau, de très haut niveau, Di Maria, Messi, Neymar, Mbappé, Icardi, ça fait beaucoup de monde offensivement. Comment Pochettino va devoir gérer cela, et comment trouver un système qui puisse magnifier tout ce petit monde?
Évidemment qu'il y a beaucoup de monde sur le plan offensif, mais je crois que c'est la première fois qu'il y a aussi autant de monde sur le plan défensif. Regarde les trois arrières centraux, appelons ça les plus importants, que ce soit Ramos, Marquinhos et Kimpembe. Tu rajoutes Kerrer qui est toujours là et Diallo. Tu as les latéraux avec le Marocain qui vient de prendre
Hakimi,
donc sur le côté droit, Bernat qui relève de blessure et que c'est comme un nouveau joueur. Ensuite tu as tous ces milieux récupérateurs, Danilo, Herrera, Gay, Wijnaldum, Verratti, donc qui peuvent disons équilibrer cette équipe. Et après, évidemment, sur tout ce que le monde attend, c'est de voir sur le plan offensif quelle va être la formule. Mais il n'y a pas une formule, il y a plusieurs formules. Ce qu'il faudra aussi, c'est savoir qui fait quoi quand il y aura en même temps Messi, Mbappé, Neymar, Icardi. Est-ce qu'on pourra jouer longtemps dans un match avec quatre offensifs plus Hakimi? Je pense que oui, ça dépend aussi les adversaires, et ça dépendra de pas mal de choses, parce que j'insiste toujours là-dessus et j'insisterai toujours, il y a quand même 5 changements qui permettent à un entraîneur d'être un peu plus équilibré sur le plan offensif, un peu plus déséquilibré. Donc ça sera le boulot de Pochettino. Par contre, ce qu'on ne sait pas, Thibautey, c'est, on va le savoir peut-être dans les heures ou les jours à venir, c'est ce que va faire Mbappé. Donc c'est un, là on me dit il y a une bonne nouvelle, il a pris la photo avec Messi. Ah bah oui, ça c'est sûr que, en ayant pris la photo avec Messi, là, ça voudrait dire quoi, qu'on est sûr qu'il va prolonger? Non, on l'espère qu'il prolonge, mais on attend tout ça avec impatience, et qu'il n'y ait pas un petit peu une surprise du genre, puisque on parlait d'un mercato qui termine dans 18 ou 19 jours. Est-ce que dans ces 18 ou 19 jours on va pas assister au départ de Kylian Mbappé? Bon, évidemment qu'on le souhaite pas, mais on attend avec impatience ce qui va se passer. Pour le moment, il y a un grand point d'interrogation après Kylian Mbappé.
Et pour toi, le silence de Kylian Mbappé sur les premiers jours, c'est vrai qu'il y a eu cette photo aujourd'hui, ça a quand même fait l'objet d'une alerte AFP.
Ça lui ressemble pas.
Le monde a changé.
C'est pour ça, même si tu me demandais un pronostic, moi je pense qu'il va avoir, je dirais, l'intelligence et la reconnaissance de prolonger, non pas de 10 ans, mais de prolonger de 2 ans, et de faire les 2 années qui arrivent et qui englobent cette Coupe du Monde au Qatar, les faire à Paris. Je m'imagine pas autre chose, je m'imagine pas un départ. Mais c'est pas parce que je m'imagine pas un départ qu'il va peut-être pas y avoir un départ.
Ce serait une façon pour lui de rester dans les meilleures conditions, en étant à Paris, de rester dans les meilleures conditions pour les Bleus également?
Mais ça serait pas un beau départ de partir comme ça. Mais par contre, là aussi tu m'entendras le dire, et même si je peux me permettre, réfléchis dans le sens que c'est pas facile du tout pour un joueur comme Kylian Mbappé d'annoncer par exemple lundi qu'il va rester au Paris Saint-Germain en étant libre au mois de juin et en pouvant signer, puisque c'est le règlement, dès le mois de janvier dans un autre club. Mais ça va être tout simplement insupportable, tout costaud qu'il est psychologiquement. Tout le monde est au courant que de sa non prolongation et il reste au Paris Saint-Germain. Mais permets-moi quand même de dire que ça, c'est dangereux, parce que tu ne peux pas ne pas penser au fait que tu es libre au mois de juin quand tu prépares les matchs. On me dit non, mais ça va, ils pensent qu'au match à venir. Mais non, qu'au match à venir, tu penses à tes jambes, tu penses aux tacles qui peuvent arriver, tu penses que les blessures ça n'arrive pas qu'aux autres, et une certaine tranquillité, c'est une prolongation ou un départ. C'est pas de semaine à semaine se rapprocher vers un départ en étant libre. Je me l'imagine pas du tout une seconde, mais bon, tu sais qu'une de mes phrases préférées, c'est que je peux me tromper, mais aussi je peux ne pas me tromper.
On peut aussi ne pas se tromper, effectivement. Tiens, on a pas mal parlé de Lionel Messi, on va tourner la page et passer à autre chose. On a parlé tout à l'heure de l'Olympique lyonnais, de la possible arrivée de Shaqiri qui pourrait rejoindre les rangs de l'Olympique lyonnais. Il y a Marco qui voulait réagir sur ce sujet. Bonsoir Marco.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va et vous?
Tu vas pas nous faire un jeu de mots avec son nom, hein?
Non, on l'a eu tout à l'heure à la rédac. On attend toujours la chanson, coach, hein?
D'accord.
Promise en début de.
Non, ça c'est ce soir. Je t'ai pas dit.
Ah, c'est
pas,
ce soir.
Je t'ai pas dit pendant l'émission.
Ok. Eh ben, ce sera pour ce soir la chanson de coach. Marco, l'arrivée de Shaqiri, qu'est-ce que tu en penses? On posait la question tout à l'heure de savoir si le fait de remplacer entre guillemets Depay par Shaqiri, c'était pas un petit peu régressé pour l'Olympique Lyonnais. Et vraisemblablement, c'est la dénomination de notre sujet qui t'a un petit peu chagriné.
Tout à fait, j'allais en venir alors. En fait, pour moi, Shaqiri ne remplace pas Depay, et il ne le remplacera jamais. Et surtout, ce n'est pas plus mal, parce que justement, on a un entraîneur qui justement vient avec ses idées, son 4-3-3. Bon, les idées, on les connaît, hein, on les a vues avec Guardiola et Cruyff plus précédemment. Et il vient avec son 4-3-3 avec deux vrais ailiers. On avait Toko Ekambi qui justement occupait une aile. De l'autre côté, on avait personne. Shaqiri va pas venir pour faire du deux pailles, prendre le ballon, dribbler tout le temps. Il va sur le côté droit. Il va donner des ballons de but à Dembélé qui n'en a pas. On voit Dembélé qui est inexistant à chaque match. Slimani pour le coup lui revient bien. Mais justement, on a besoin d'un joueur qui sur le côté droit va percuter avec son pied gauche. Il peut mettre des bons ballons de centre. Il peut frapper de loin. Il peut tirer le coup de arrêté comme on l'a dit tout à l'heure. Shaqiri va pas venir pour prendre la lumière comme Depay la prenait. Mais par contre, c'est excellent en termes de qualité. Je pense qu'on a pu le voir avec la Suisse dans les intervalles. Il était toujours bien positionné. Il nous a mis la misère, même quand Pogba n'a jamais arrêté. Avec son pied gauche, il peut mettre le ballon absolument où il veut. Souvent, avec Liverpool, d'ailleurs, je le voyais plus rentrer derrière les trois attaquants que en tant qu'ailier. Vous le disiez tout à l'heure qu'il était le super sub, mais en fait, il était souvent à rentrer comme un 8, comme un 8-10 à Liverpool. Et ensuite, il joue 10. Donc c'est plus un créateur. Nous, avec Toko Ekambi, on a justement un genre de profondeur. Avec Dembélé, on a un vrai neuf d'appui de surface. Je pense que ça peut être une bonne recrue. En plus, Peter Bosz, il veut des joueurs justement capables de jouer en une, deux, tous les intervalles, de pouvoir créer des décalages. Et avec les milieux de terrain qu'on a, qui sont Guimaraes, Paqueta et Aouar, ils sont capables de lui mettre des bons ballons sur les côtés. Et moi, avec justement Aouar et Paqueta qui sont capables de se projeter dans la surface, ça va créer un vrai danger de plus. Puis en plus, bah, le palmarès du mec, je pense qu'on n'a pas besoin de le rappeler. Hein. Je pense que deux Ligue des Champions à l'OL, c'est pas récemment que c'est arrivé. Donc voilà, moi je suis très 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 content. Il manque plus qu'un latéral gauche déjà. Et on aura une équipe un peu compétitive.
Coach, mais enfin, donne-le-moi s'il te plaît. C'est pas une question piégée. Donc non, dans ta précision, toi tu t'imagines donc Peter Bosz jouer en 4-3-3 avec tous ces attaquants dans cet effectif et dans le 4-3-3 il y a Shaqiri
sur le côté droit bien sûr, ouais. C'est là où il a été formé à l'époque avec le Bayern. Là justement en Suisse il jouait plutôt en 10 dans le 3-5-2 de Petkovic, si je ne m'abuse. Et sauf que là il joue à côté droit. Justement, lui, là, on le prend pourquoi ? On le prend pour avoir un gars capable de repiquer, capable de centrer. Enfin, je suis persuadé. Il est capable aussi de dézoner, de jouer, de revenir connaître un peu le côté gauche.
On s'amuse. Même, et je le dis suffisamment, même s'il y a changement, il faut quand même un 11 de départ. Ouais. Avec l'effectif de Lyon, on démarre comment donc
4-3-3. 4-3-3 avec Guimaraes pointe basse, la défense, bon, les 4 de derrière, avec Lopez dans la cage derrière, bah, il faut une recrue à gauche pour remplacer Cornet. J'aimerais bien Luqueba titulaire avec Denayer.
Donc les trois du milieu, c'est Guimaraes, Paqueta, Aouar,
Paqueta et Aouar en concurrence avec Maxence Lacré.
D'accord.
Parce que pour moi, Aouar, c'est le gars qui a le moins, pour l'instant, qui est le moins en forme, je trouve, des trois. Paqueta, il est arrivé, il a changé tout le jeu de l'équipe en une demi-heure. Et Guimaraes, c'est un fantôme, et surtout Guimaraes, bah, je pense qu'en 6 sentinelles, parce qu'il y a deux types de 6, il y a les 6 purement défensifs, il y a les sentinelles comme Guimaraes. Et en Europe, on ne trouve pas beaucoup mieux que Guimaraes, tête de Jong, mais il n'y en a pas 10 000 d'autres. Et devant, Shaqiri à droite, Toko Ekambi à gauche, et Dembélé ou Slimani devant.
Après, Marco, tu comprends qu'on puisse se poser la question.
Ça a de la gueule, mais bon, sur le plan de la solidité défensive, milieu Aouar, Guimaraes, Paqueta, plus Shaqiri, mettons Slimani ou Dembélé et Toko Ekambi, derrière, il va falloir avoir quatre défenseurs.
Je suis pas plus inquiet que ça du tout. Parce qu'après, tout va dépendre encore une fois de l'animation qu'on va donner au jeu. Et quand on a quand justement le 4-3-3 de Peter Bosz qui veut, c'est des gars capables de faire le pressing dès la perte, ce qui n'était pas le cas de Cherki pour l'instant. J'espère qu'il va commencer à arriver à le faire. Mais Shaqiri, il le fait. Il l'a toujours fait dans les équipes où il a été. Toko Ekambi le fait. Il n'y a que Aouar, en fait, au milieu de terrain qui ne le fait pas trop. Parce que Paqueta, le pressing, il l'a toujours fait. Il a récupéré les dernières énormément de ballons. Guimaraes, il s'est en gratté aussi. Il n'y a que Aouar qui en gratte pas trop. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que j'aimerais bien que Maxence Cacré ait un peu plus sa chance que cette saison, encore. Parce qu'il n'y a que Aouar qui fait le pressing à moitié et qui revient en marchant. Mais sinon, le reste, ça défend bien. Et si le pressing que j'ai pu voir dans les matchs amicaux par moment contre le Porto et contre le Sporting est vraiment mis en place pendant 90 minutes contre des équipes de Ligue 1 qui ont beaucoup de mal souvent à relancer le bas, de derrière, souvent qui essaient de chercher loin devant. Si on a 80% de possession par match dans 90% du temps, Je pense que c'est des matchs en Ligue 1, on peut plier l'affaire assez vite contre le 90% des équipes. Après, contre Paris, contre Marseille, contre peut-être Lille et Rennes, peut-être qu'il y aura pour jouer un peu différemment, mais je pense que contre la plupart des équipes en Ligue 1, ce pressing-là, il peut faire la différence. Récupérer les ballons haut et éviter de subir.
Merci beaucoup Marco pour ce petit cours de tableau noir. C'était très précis
et
très juste.
Ouais, c'est un Marco optimiste, mais
et avec des idées.
Pourquoi pas?
Bravo Marco. On te souhaite une très belle saison avec l'Olympique Lyonnais. Nous on revient dans un instant, on va parler du football anglais avec notamment le match qui s'est déroulé hier, la victoire, vous l'avez suivi, de Chelsea sur Villarreal en Supercoupe d'Europe. Et puis c'est également le retour de la Première Ligue à venir dans les semaines qui viennent. Ça va commencer d'ailleurs dès ce week-end, la Première Ligue que vous pouvez suivre sur RMC Sport 1, tout comme le football européen. Mardi 21h, le rendez-vous est pris sur RMC Sport 1, c'est le barrage aller, Monaco, Shakhtar Donetsk au stade Louis II. Mercredi, même heure à 21h, PSV Eindhoven contre Benfica, ou plutôt Benfica PSV Eindhoven. Il y aura le débrief, toutes les images des matchs aller, des barrages. Et puis jeudi, 18h, c'est en exclusivité, Ami Breton sur la Ligue Europa Conférence. Ce sera sur RMC Sport 1, le match entre Rennes et Rosenborg. Et puis évidemment, tout au long de la saison, la Ligue des Champions, Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain, toutes les compétitions européennes avec les clubs français, c'est sur RMC Sport 1 que ça se passe.
RMC Football Show, Timothée Mémont.
De retour dans le RMC Football Show.
Comme un fuseau, courrier du chien sans faire exprès.
Eh oui, c'est l'anniversaire de coach. Il ne veut pas chanter pour nous, coach. Et pourtant, c'est son fils Stéphane Courbis qui a demandé. Il ne veut pas chanter pour nous, alors écoutez.
C'est extra, les maudits blues qui s'en balancent. Cet ampli qui ne veut plus rien dire.
Coach, c'est mieux que pas mal, hein. Un petit côté crooner beach bar, là, je crains pas du tout, quoi. Voilà, cet extra avec coach Courbis, à qui on souhaite une nouvelle fois un excellent anniversaire. C'est ce week-end la reprise.
Ouais. C'est extra l'anniversaire.
Bien sûr. C'est la reprise de la Première Ligue ce week-end. Et puis hier, Chelsea était sur le sommet de l'Europe en remportant la Supercoupe d'Europe qui met aux prises le vainqueur de la Ligue des Champions et le vainqueur de l'Europa League. C'était donc Chelsea-Villarreal. Victoire de Chelsea au tir au but avec un Thomas Tuchel qui a eu du nez, qui a fait rentrer Kepa à la place de Gomis pour la séance de tir au but, hein, seulement dans les dernières secondes pour disputer la séance de tir au but. Et Kepa a été décisif dans cette séance de tir au but pour parler de football anglais, qui d'autre que Julien Laurence. Salut Julien.
Salut Tim, salut coach. Happy birthday coach, hein, bien sûr.
Ouais, merci.
Comment ça va Julien?
Superbe, merci. Superbe, la saison a bien commencé et elle s'annonce encore mieux pour ce week-end sur nos antennes en plus, donc ça va être très très bien.
Un petit débrief sur la rencontre d'hier et peut-être sur le coup de force réussi par Thomas Tuchel. Alors évidemment, il est champion d'Europe en titre. Est-ce qu'il avait vraiment besoin d'asseoir son talent de coach? Comment ça a été perçu et analysé en Angleterre?
Un coup de génie déjà pour avoir fait rentrer Kepa Arrizabalaga bien sûr pour les tirs au but qui va en sauver deux, un petit peu comme Louis van Gaal avait fait avec les Pays-Bas à la Coupe du Monde 2014 contre le Costa Rica et Tim Krul et Jasper Cillessen. Ça a très bien marché, ça aurait pu ne pas marcher, mais on ne l'aurait pas voulu non plus si ça n'avait pas marché, parce que il a tenté un coup avec les gardiens pour la séance de tirs au but. C'est toujours un petit peu particulier. On a trouvé un bon Chelsea sur la première période, notamment la première demi-heure, avec un but très bien amené, très bien construit pour Ziyech qui malheureusement pour lui s'est blessé à l'épaule ensuite. Un très bon N'Golo Kanté, aussi un petit peu plus dur en seconde période, notamment dû au travail physique qui a été effectué pendant la préparation, des temps beaucoup plus faibles. Et Villarreal a su en profiter avec un très joli but amené notamment par Bouladia, l'ancien joueur de Ligue 1. C'est plutôt encourageant, j'ai trouvé, pour Chelsea. Et puis surtout, la très bonne nouvelle, c'est pas simplement la victoire d'hier, c'est aussi l'arrivée de Romelu Lukaku qui a été annoncé officiellement il y a quelques minutes. Donc Romelu Lukaku qui va venir renforcer cette équipe. Pour moi, comme je l'ai dit dans l'after encore hier soir, hein, c'était le chaînon manquant, la dernière pièce du puzzle de Thomas Tuchel qui pour moi va faire de cette équipe une équipe exceptionnelle et qui pour moi est légèrement favori devant City pour remporter le titre de champion.
Coach, tu as regardé cette rencontre, tu t'es globalement régalé, mais je crois qu'il y a quand même une chose ou deux qui t'ont un peu moins plu.
Ah ben non, je veux avoir l'avis de Julien, parce que bon, il y a toujours dans un match de football ou dans plusieurs matchs de football des concours de circonstances, des coïncidences, mais Julien, Rudiger, c'est quoi ce concours de circonstances? On l'aime bien, il a des relations avec les arbitres, c'est quoi là, ce Rudiger qui massacre de Bruyne et qui a la chance de ne pas être dans une certaine époque, parce que si je te promets, je suis coéquipier de Bruyne ce soir-là, eh ben je pète un boulon. Hier, je le vois encore, mais ça vient de quoi ça?
C'est vrai. Alors, il a toujours eu ce côté très agressif
je sais pas. On se rappelle quand même cette finale contre De Bruyne.
Ouais. Non, on s'en rappelle bien. Alors, ce qui est hallucinant en plus, c'est que Tuchel a quand même pris un carton jaune sur l'action parce qu'il s'est plaint du carton jaune qu'avait reçu Rudiger, donc son joueur. Sur cette action-là, j'imagine qu'il avait dû dire à l'arbitre qu'il avait touché le ballon en premier, Rudiger, et effectivement, ensuite, il rentre dans Yannick Pinault.
Il a touché le ballon avant les trois fractures au visage. Il a effectivement touché un petit peu le ballon, c'est vrai.
Et pour De Bruyne, et puis là, pour Pinault aussi, hier soir. Je pense qu'il va falloir qu'il fasse très attention. On l'avait vu aussi à l'Euro, bien sûr, avec l'épisode avec Paul Pogba et la mini morsure, on va dire. Parce que maintenant,
t'imagines qu'il se permet de faire ça, en plus?
Ouais, c'est vrai. Hier, c'était encore une fois vraiment très, très limite. Et je pense qu'il doit faire vraiment attention parce que, et je crois que Tuchel lui a déjà eu cette discussion avec lui. L'engagement, c'est bien, c'est très bien. Coach, toi, t'as été dans une époque où il y avait pas mal d'engagement, mais à un moment, ça peut être maintenant, très, très rédhibitoire pour son équipe aussi s'il avait eu un carton rouge hier ou même en finale de la Ligue des Champions assez tôt dans les rencontres finalement. C'est vrai que ça aurait pu coûter très cher à son équipe. Il va falloir qu'il fasse attention et c'est vrai que c'était encore une fois très limite hier soir.
Enfin, bon, écoute, dans tous les cas, bravo Chelsea, bravo Tuchel, bravo Rudiger d'arriver à faire ça sans avoir de carton rouge. Mais c'est pour moi un exploit.
Julien, effectivement, il y a cette réussite une nouvelle fois du football anglais. Il y a également la reprise de la Premier League ce week-end. Ça commencera évidemment, sera à suivre sur RMC Sport 1. Ça commencera avec Brentford Arsenal et puis ça va s'enchaîner. C'est toujours pareil en Angleterre. Il y a des affiches dès la première journée. Manchester United, Leeds pour ce qui est de samedi. On va retrouver un Chelsea, Crystal Palace, Norwich, Liverpool. Bref. Qu'est-ce qu'il faut suivre? Quels sont les gros points d'intérêt? Et mouille-toi un peu, les vrais favoris, et ne nous sors pas le Big Five, s'il te plaît.
Alors, le gros match, bien sûr, c'est Tottenham-Manchester City, dimanche après-midi, avec la première de Nuno, qui est arrivée de Wolverhampton, avec Pep Guardiola et son équipe, pas vraiment prête, mais déjà forcément prête aussi, puisque malgré tout, ils auront une très belle équipe sur le terrain, avec Jack Grealish qui devrait être titulaire. C'est bien sûr l'ombre de Harry Kane qui va planer aussi sur cette rencontre. On sait que City se prépare à monter encore au front pour Kane, avec une nouvelle offre, qui cette fois, il l'espère, fera plier Tottenham et Daniel Levy. Donc ça va être fascinant. Tu l'as dit, Manchester United contre Leeds, le Leeds de Marcelo Bielsa. Bielsa qui a annoncé aujourd'hui sa prolongation de contrat aussi. Une équipe de Leeds dont on a vu tellement de belles choses la saison dernière. On attend la confirmation, voire peut-être même un petit peu mieux.
Qu'est-ce qu'il y a eu comme recrutement du côté de Leeds?
Alors il y a par exemple Junior Firpo de Barcelone, le latéral. Il y a eu Jack Harrison qui était déjà en prêt chez eux, qu'ils ont fait en transfert permanent. Mais sinon c'est vrai que ça a pas trop bougé. J'attendais peut-être plus, surtout au niveau de la pointe. Je pense que Patrick Bamford avait fait une très belle saison l'année dernière, mais il a peut-être besoin aussi de quelqu'un qui peut soit alterner avec lui ou soit jouer en pointe avec lui. Et je pense qu'ils vont continuer à faire confiance à Rodrigo, qui peut jouer un peu partout avec Bielsa, d'ailleurs qui a joué partout la saison dernière. Mais c'est vrai que cette équipe de Leeds, on l'attend aussi, parce qu'avec le retour des supporters, Elland Road va être absolument exceptionnel pendant toute la saison. L'année dernière, on disait ça faisait 16 ans qu'ils n'étaient plus allés en Première Ligue. Quand ils sont remontés, il n'y avait pas de supporters dans les stades. Là, ils vont être enfin de retour, surtout après les promesses qu'on a vues l'année dernière. Ça peut être vraiment très très bien du côté de Leeds. Crystal Palace, Chelsea avec un Patrick Vieira pour ses débuts en Première Ligue aussi avec Palace. Il aurait quand même pu avoir un premier match un peu plus sympa pour lui, parce que là, ça va vraiment être compliqué, même si Lukaku sera pas là pour Chelsea. Et puis Arsenal contre un des promus aussi, Brentford, vendredi. Je pense qu'on va vraiment se régaler cette saison sur RMC en regardant la Première Ligue. Et Tim, je suis vraiment désolé, mais à mon avis, le titre, il peut pas échapper à un de City, United, Chelsea ou Liverpool. Et pour moi, comme je disais tout à l'heure, Chelsea, ouais, légèrement favori, parce que Lukaku, c'est exceptionnel, je pense, comme recrutement, surtout par rapport à la dynamique de la saison dernière, et avec Tourelle.
Là, on va s'amuser. Si, par exemple, Lukaku, il est arrivé, ok. Mais avec l'effectif de City, Grealish et Kane, excuse-moi.
Kane n'est pas encore là, coach. Lukaku, il est là, lui.
Mais t'inquiète pas, il va arriver. Donc,
oui, je pense aussi, mais pour l'instant, il n'est pas là.
Ben, moi, je mets un petit quelque chose sur City.
Liverpool. Non, mais je pense que, en tout cas, je pense que c'est pas. Pardon, Tim, je pense que c'est le. C'est, ce sera une des saisons les plus compétitives et les plus serrées, notamment dans la course au titre, depuis de longues années où on avait eu soit une équipe qui se détachait largement au début, soit peut-être deux qui se tiraient un petit peu la bourre, mais pas plus. Là, je pense que ces quatre-là, vraiment, et peut-être même Leicester, je pense qu'ils peuvent vraiment, vraiment, jusqu'au bout, être dos à dos pour cette course au titre qui peut être vraiment passionnante.
Leicester, ils ont perdu Fofana, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est énorme.
Liverpool, Julien, c'est une équipe qui a besoin de retrouver un souffle, notamment sur le plan physique avec ses joueurs. C'est aussi une équipe qui va perdre deux de ses meilleurs joueurs pendant la Coupe d'Afrique des Nations, Mané et Salah, peut-être Keita également. Ça va être compliqué pour Liverpool de vraiment s'accrocher au basque de Chelsea et City.
Ça va être fascinant parce qu'on en parlait dans l'after hier. On a eu d'ailleurs un auditeur aussi qui nous a appelé, qui lui était très confiant. Moi, je pense que c'est la saison clé pour Klopp. Soit il arrive à relancer cette machine, notamment, tu le disais, physiquement, dans l'intensité de jeu, même s'il peut les faire évoluer un petit peu et mettre un petit peu plus le pied sur le ballon et gérer un petit peu plus peut-être avec le ballon, avec un Thiago Alcantara, par exemple. Mais quand même, il faut relancer cette machine-là. L'année dernière, certes, il y a eu beaucoup de blessures et ils ont vraiment pas eu de chance, pas eu de réussite à ce niveau-là. Mais tu as senti quand même aussi un essoufflement collectif et individuel par rapport au jeu prôné par Klopp. Là, vraiment, il va falloir qu'il relance tout ça.
Ce qui est logique, en fait.
Oui, bien sûr. Alors, soit il est capable de le faire très bien, soit il a plus de mal, un petit peu comme en fin de cycle à Dortmund, où il avait vraiment eu, il avait été incapable de relancer cette machine. Donc, ce sera à voir. Mais ils ont pris Konaté, c'est très bien, Konaté. Et comme il l'a dit l'autre jour, Klopp, malheureusement pour eux, en ce moment, il faut vendre d'abord avant d'acheter. On sait que Shaqiri devrait aller à Lyon. Et après, on va voir qui ils vont prendre. Derrière, il faut quelqu'un au milieu de terrain, je pense encore. Mais c'est vrai que si c'est le Liverpool, des belles années d'il y a 2-3 ans, bien sûr qu'ils seront là avec les trois autres pour se mêler à la course au titre. Si la saison débute un petit peu mal ou c'est moyen et que tu sens vraiment que justement cette intensité-là, ils n'arrivent pas à la retrouver, je pense qu'ils auront du mal peut-être à suivre effectivement les autres qui, à mon avis, vont avoir un rythme assez fou.
Pour le moment, personne n'a remplacé Wijnaldum.
Non, c'est vrai.
Pas facile, ça.
C'est pas facile.
Et Manchester United, pour faire un peu le tour des gros, il y a Jadon Sancho qui sera là. Il y a quand même une grosse armada. Raphaël Varane également aux côtés de Maguire. Est-ce que les supporters de United qui ont vu leur équipe aller en finale de l'Europa League pour finalement les décevoir parce qu'ils devaient la gagner, elle était à leur portée cette finale. Est-ce qu'elle a vraiment les reins pour aller se mêler à la course au titre, et est-ce que l'entraîneur est au niveau?
C'est ça. Pour moi, c'est là la question, Tim. C'est est-ce que Solskjaer va pouvoir élever son niveau à lui par rapport à cette équipe qu'il a maintenant, qui sur le papier est fantastique. C'est peut-être pas le meilleur 11. Si tu regardes que les 11, l'effectif, mais charnière, Maguire, Varane, après devant Rashford, Cavani, Sancho, et puis derrière Pogba et Bruno Fernandez, c'est du très très haut niveau. Donc pour moi, la clé elle est sur Solskjaer. S'il arrive lui à trouver la bonne formule, à trouver la bonne dynamique, on a vu quelques progrès la saison dernière notamment, mais c'était des progrès assez lents, et ils ont fini deuxième, finale d'Europa League comme tu as dit qu'ils auraient dû gagner, mais il y a cette malédiction des demi-finales qui faisait que de perdre, qui cette fois ils ont gagné. Et pour moi, c'est vraiment la saison où Solskjaer doit montrer, doit enfin convaincre et doit montrer qu'il peut amener cette équipe au niveau supérieur.
Julien, on a parlé des gros. Tu nous as parlé du retour du public à Leeds. Effectivement, ce sera quelque chose d'essentiel, le retour du public d'une manière générale, évidemment. Mais on a très envie de voir Ellen Road avec du public. Allez, deux trois petites attractions de ce championnat. Peut-être Nuno Espirito Santo sur le banc de Tottenham, c'en est une. Tu l'as évoqué. Ouais. Deux trois petites attractions, des choses pour lesquelles on a envie de vibrer, comme l'Angleterre. Ces petites histoires dont l'Angleterre a le secret.
Ouais, bien sûr. Alors Aston Villa, dans l'après Grealish, voir comment ils vont gérer tout ça. Eux qui avaient été un petit peu une des équipes surprises de la saison dernière. West Ham aussi, avec Areola notamment dans les buts. Savoir comment eux ils ont digéré cette saison assez incroyable l'année dernière où ils ont presque arraché la Ligue des Champions. Là ils vont avoir l'Europa League le jeudi soir et le championnat le dimanche. On va avoir aussi chez les promus Brentford, qui est une très très belle équipe, qui joue très bien au ballon, qui a une vraie identité de jeu, dont c'est la première dans leur histoire en première ligue, mais qui fait beaucoup de très bon travail avec leur communauté, avec ce club là c'est assez un club assez atypique, assez fantastique, à voir s'ils arrivent à se maintenir. Norwich, Watford, eux sont des revenants en première ligue, ils connaissent un petit peu, même s'ils font souvent le yo-yo, et puis Crystal Palace avec Patrick Vieira. Moi j'attends beaucoup de Patrick, je veux voir ce que ça peut donner à ce niveau là oui. ils ont recruté des très bons jeunes, c'est une belle chance pour lui, mais c'est aussi, ça peut être très compliqué avec pas mal de pression aussi, donc à suivre.
Merci beaucoup Julien, la Première Ligue, ça reprend demain avec Brentford Arsenal. On souhaite une très bonne reprise mon Julien, et j'espère à très vite sur une pelouse britannique dans un des stades que j'aime avec particulièrement. Coach, merci beaucoup, encore un excellent anniversaire, évidemment, cette jeunesse dans la voix et dans le regard rieur qui ne se dément pas. Je vous redonne cette information essentielle, le foot européen est à retrouver dès la semaine prochaine à la télé sur AMC Sport 1. Ce que vous entendez derrière moi, c'est cet extra featuring Coach Courbis. Mardi à 21h, barrage aller Monaco, Shakhtar Donetsk en direct du stade Louis II. Le lendemain, il y aura Benfica, PSV, Eindhoven, toutes les images des matchs de barrage aller. Et puis jeudi à 18h, c'est en exclusivité la Ligue Europa Conférence avec Rennes Rosenborg. Et puis enfin, sachez que cette saison, si vous voulez voir le Paris Saint-Germain et Messi en Ligue des Champions, mais aussi les trois compétitions européennes, Europa League, Ligue des Champions et Europa Conférence, c'est sur RMC Sport 1 que ça se passe. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à demain. Pour ma part, ce sera pour le RMC Football Show et pour l'After, et puis n'oubliez pas ce que disait Bill Shankly, le football ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est beaucoup plus important que ça.
RMC Football Show.